IDFM Radio, bonjour, bonjour, bienvenue, c'est l'émission de la famille, j'espère que vous passez de très bons moments en notre compagnie. C'est aussi les vacances, 8h-9h30, la semaine prochaine il n'y aura pas d'émission, nous serons en vacances. Donc là, profitez pleinement de tous nos bons plans. On va échanger dans un instant avec Marie-Ange Laurent et Eric Lebrun. Ils nous présentent un album de musique classique à destination du jeune public qui s'appelle Classique et Compagnie. Il y aura aussi un sujet sur la House of Mini Lima. Elle a débarqué il y a quelques mois à Paris, dans une magnifique galerie dans le 7e arrondissement. Cette galerie appartient à la maison d'édition Gallimard et j'ai rencontré la présidente de Gallimard Jeunesse, Edwige Pasquet. Nous évoquerons aussi le festival Image par Image, le festival du film d'animation un peu partout sur Val d'Oise, mais aussi aux quatre coins de l'Île-de-France, puisque hier, nous étions à une séance à Saint-Ouen-l'Aumône. Et puis, nous retrouverons aussi quelques voix du film d'animation La Patte Patrouille, puisque le nouveau film des chiots est disponible, ça y est, depuis mercredi dernier, en DVD, mais aussi en Blu-ray. Bienvenue sur IDFM Radio.
Enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando. Inseparables son y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguantan más. Hay que crecer aparte y volver hacia adelante. Seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Se aguanten más, hay que crecer aparte y volver hacia adelante. Seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Desorientadas en dos capullos, bien abrigadas, con sueños nuevos. Ya solo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes. Ahí viene nuestro milagro. Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver hacia adelante. Seguirás.
son milagros, rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Hay mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver hacia adelante.
Mozart, Beethoven, Fauré, Liszt, tous ces grands compositeurs sont à découvrir sur l'album Classique et compagnie, 23 paraphrases à quatre mains. Et c'est une idée de Marie-Ange Laurent et Éric Lebrun. Tous les deux sont organistes, pianistes. Et nous allons les retrouver d'ici quelques minutes sur IDFM Radio pour nous parler de ce très beau projet.
If I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it, no. Put you in a frame, oh baby, who could blame you? Glad your mama made you. Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side. I wanna tell you everything, everything that's on my mind. And I don't want any other guys taking my place, girl, I got too much pride. I know I may be wrong, but I don't wanna be right. Cause your lips were made for mine, and my heart would go flatline if it wasn't beating for you all the time. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it, no. Put you in a frame, oh baby, who could blame you? Glad your mama made you. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it, no. Put you in a frame, oh baby, who could blame you? Glad your mama made you. Making me insane. You must be. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
IDFM Radio, aujourd'hui, je suis avec le label Chanteloup Music, qui existe depuis 2013. Et pour représenter ce label qui vous propose à la fois de la musique classique, mais aussi du jazz, nous sommes avec Marie-Ange Laurent. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Pianiste depuis quel âge ?
Ouh, depuis l'âge de 5 ans.
Et nous sommes avec Éric Lebrun, pianiste aussi depuis...
Oh, moi, ça fait l'âge de 8 ans, avec une interruption. Et puis, j'ai repris à 17 ans. C'est comme ça que j'ai connu Marie-Ange, d'ailleurs.
Et tous les deux, vous sortez un album qui s'appelle Classique et Compagnie. C'est votre première collaboration ensemble ou pas ?
Non, on a un duo depuis très longtemps, en fait, depuis une bonne trentaine d'années.
Même pour le label Chanteloup Music ?
À Chanteloup Music, on collabore toujours avec Chanteloup Music, bien sûr, puisque c'est une entreprise familiale. Mais comme duo, en fait, on est surtout un duo d'organistes, parce qu'on a plus opté vers l'orgue. Mais on fait du piano depuis longtemps, et du duo, en tout cas, ça fait une... Une bonne somme d'années, on va dire.
Sur cet album, on va retrouver des grands compositeurs, hein, de Bizet à Forêt, en passant par d'autres qui font encore aujourd'hui résonner, par exemple, des spots publicitaires, hein, parce que la musique classique, finalement, elle est partout. Hein.
C'est vrai.
Quand on écoute un air, on se dit « mais je l'ai déjà entendu ».
Voilà, et c'était ça, en fait, le but un petit peu, c'est de tous ces airs qu'on entend, on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est, mais on les aime spontanément, et comme on est plutôt des musiciens classiques, en tout cas par notre formation, et puis par la formation qu'on enseigne aussi, on s'est dit, ces airs classiques, faisant une anthologie, parce que souvent on se dit que c'est le classique, c'est assez ringard, que bon, voilà. Mais en fait, quand même, tout le monde apprécie ces airs, c'est vrai que les publicités, les films, les utilisent régulièrement. Donc on les connaît par ces films. Souvent, les gens, ils disent que c'est la musique de l'arnaque, ou c'est la musique de ci ou de ça, mais ils disent pas de qui est la vraie musique, en fait. Et c'était amusant de faire une compilation de tout ça pour avoir que des beaux airs, en fait, qui soient mis bout à bout. Et on a choisi de le faire à quatre mains parce que ça pouvait plus ressembler à de l'orchestre, en fait. Il y avait un champ plus large par rapport aux instruments parce qu'on a voulu justement éviter les musiques qui soient vraiment que des musiques de piano. Donc on a transcrit les pièces et puis ça fait des pièces... qui sont plus chatoyantes, on va dire.
Comment vous avez procédé exactement ? À quatre mains ? Chacun son tour ?
Ah non,
vous n'utilisez qu'un seul ?
Non, on est toujours à quatre mains, en fait. Dans tout le... En fait, les arrangements... moi, j'ai fait les arrangements par
rapport... Vous jouez en même temps ? Oui. Il y a les quatre mains sur le piano qui bougent.
Voilà, exactement.
Mais c'est pas exactement c'est pas seulement des transcriptions, parce qu'il y a aussi des arrangements un petit peu humoristiques, des petits clins d'œil. Par exemple, la première plage, c'est Albéniz. Et en fait, la partition combine la musique d'Albéniz avec le thème de la 5e symphonie de Beethoven.
Thème du destin, oh,
voilà.
C'était
un petit clin d'œil. Oui, voilà. Il y a plusieurs extraits comme ça où il y a des petits arrangements qui dévient un tout petit peu par rapport à l'original.
Puis, coupures, on les a remixés un petit peu à notre façon.
Il ne faut pas que ça dure trop longtemps à chaque
fois.
Oui,
parce que c'est, on va dire... pas tout à fait des extraits, mais presque pour certaines œuvres.
Hein. Exactement.
Les œuvres à l'époque de Beethoven ou d'autres, c'était long.
Voilà, c'était trop long.
C'était sinon, en plusieurs parties, opus 147, adagio numéro 37. Je dis ça comme ça, c'est peut-être des bêtises, mais en gros, c'est comme ça. Hein.
Ah, bien sûr. Oui.
Et là, en fait, on respecte le format d'une chanson. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que ça va de 1 minute à 4 minutes. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un petit rappel de ce thème qu'on aime bien entendre, qu'est-ce que c'est finalement, voilà, et puis on peut l'écouter. Alors le thème, peut-être une seconde idée musicale aussi derrière, mais finalement quelque chose d'assez fugitif. Voilà, ça ne nous empêche pas de faire d'autres choses dans notre vie de musicien, mais ça, c'était une petite expérience un peu originale.
Et qu'est-ce que vous faites justement à côté ? Vous donnez des cours ou pas ? Ou vous avez donné des cours auparavant ?
En conservatoire, en fait, tous les deux, on est professeur d'orgue, en fait. Moi, je suis au conservatoire de Clichy-la-Garenne et puis Eric au conservatoire de Saint-Maur, les Défossés.
Là, vous n'avez pas utilisé l'orgue pour cet album ?
Non, parce qu'en fait, on a voulu justement s'écarter un peu d'orgue parce que le piano, en fait, ça fait plaisir à tout le monde au bout du compte. Et puis peut-être...
Mais l'orgue, c'est beau aussi, ça a une résonance particulière.
Oui, bien sûr. Par exemple, en ce moment, on est en train de continuer l'intégrale de Bach, donc on fait aussi...
20 CD. au total.
Beaucoup d'enregistrements d'orgue. Mais en fait, là, c'était pour un public un peu plus large, en fait. Parce que l'orgue, c'est un peu un public spécifique. Il y a des gens qui n'aiment que l'orgue. Ils n'iront pas au concert d'orchestre. Puis, il y a des gens qui n'aiment pas du tout l'orgue. Et puis, le piano, ma foi, ça rassemble un petit peu tout le monde. Et c'est vrai qu'autour de nous, finalement, il y a beaucoup de gens qui l'ont entendu, puis qui sont contents que ce soit au piano, parce qu'ils n'écouteraient pas de l'orgue en boucle. Et il y en a qui nous ont dit qu'ils écoutent ça en boucle, parce qu'ils sont comme au concert, en fait. Mmh. Parce que c'est que des thèmes qu'ils aiment bien. Mais on aurait fait les mêmes thèmes à l'orgue. Ça aurait été sans doute un peu différent. Puis c'est vrai que c'est toujours associé à l'église, l'orgue. Alors là, on sort un peu de ça aussi, parce que les gens, ils pensent sonorité d'orgue. C'est l'église, alors que bon, c'est pas forcément, parce qu'on a quand même beaucoup de répertoires. Et puis ces répertoires-là, on peut les jouer à l'orgue aussi, bien sûr. Mais le piano, ça rassemble vraiment tout le monde, je pense.
C'est vrai. C'est peut-être effectivement plus parlant, mais de voir un orgue quand même en face à face, c'est toujours impressionnant. Hein.
Ah,
c'est une sacrée machine. Hein.
Et puis c'est comme un orchestre.
Oui, oui, oui. Tout à fait, avec tous ces tuyaux, ces majestueux. Faut aller le voir quand même, cet orgue. Hein. Mm-hmm. C'est vrai, comme vous l'avez dit, dans les églises principalement. Hein.
Bah d'ailleurs, le premier office que j'ai joué en étant une vraie organiste professionnelle, c'est à Enghien.
Ah oui, c'est marrant.
Oui,
où
c'est
ça
marrant. Bah, l'église qui est juste à côté.
Le temple protestant, peut-être.
Bah, c'est
non,
pas, c'est pas c'est l'église qui est juste à côté de la mairie là.
Ah, l'église qui est dans notre rue, en
oui.
fait, là, en
oui.
remontant
bien,
rue de Morat.
C'est
presque
un pèlerinage pour moi, parce que c'est la première fois que j'étais encore étudiante au conservatoire où on m'a proposé d'aller faire un office, mais comme une professionnelle.
Vous avez reconnu, ça n'a pas trop bougé, non?
Non.
Bon. Et vous étiez déjà venu ici ou sur le Val-d'Oise?
On a fait un concert aussi.
Oui, on a donné un concert ici, tous les deux, il y a quelques années, dans cette église. Et puis, le Val-d'Oise, moi, j'y ai joué assez souvent avec l'orchestre Jean-Valter Odoli, l'ensemble instrumental Jean-Valter Odoli, qui était basé sur le Val-d'Oise et qui tournait. Alors, on a donné pas mal de concertos pour orgue, y compris des œuvres nouvelles à Sannois, par exemple, enfin, dans tout le département.
Nous sommes toujours aujourd'hui sur EDFM Radio avec Marie-Ange Laurent et Eric Lebrun. On parle aujourd'hui de l'album Classique et compagnie, 23 paraphrases à quatre mains. On va écouter Bizet, quelques mots sur ce compositeur avec le morceau Habanera. Qui peut nous en dire
Bon, c'est un des plus célèbres extraits de Carmen. Carmen, cet opéra qui a eu un succès absolument phénoménal, mais que Bizet, hélas, n'a pas presque pas connu, puisqu'il est décédé pendant des représentations de Carmen, justement. La Habanera, c'est une danse très typique de l'Andalousie, et donc qui a été d'ailleurs reprise par de nombreux compositeurs, comme Ravel, Debussy. Et là, donc, c'est voilà, une des plus célèbres du genre.
Direction l'Espagne ?
Oui, direction l'Espagne.
Avec donc Bizet, c'est la piste 9 de votre album qui est sorti dernièrement, en décembre dernier, avec le label, je le reprécise, Chanteloup Musique. Et vous me disiez, hors antenne aussi, distribué actuellement, maintenant,
oui.
dans toutes les FNAC.
Oui, dans toutes les FNAC et magasins culturels, oui, depuis une semaine.
IDFM Radio. BFM Radio, nous sommes aujourd'hui avec Marie-Ange Laurent et Eric Lebrun, deux pianistes organistes. Hein, avant d'être pianiste, ou non, vous avez démarré par le piano.
Le piano d'abord.
Hein. Oui, on démarre en règle générale, c'est ça.
Oui, pas seulement, mais de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui commencent par l'orgue directement. Mais nous, c'est vrai qu'on a eu un parcours...
Et puis notre génération, souvent, il fallait attendre d'avoir appris de piano avant de pouvoir toucher au clavier de l'orgue.
Piano blanc à la maison, piano noir, piano à queue.
Ah ouais, non, on n'avait pas les moyens.
Piano droit, On a fait des études de piano. C'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus, parce qu'on s'est connus lors d'un examen de piano au conservatoire de Rueil, donc c'est pas si loin que ça. Et en fait, après, on se connaissait pas et on a parlé beaucoup de Glenn Gould.
Pianiste canadien, un petit peu le piano
qui nous a rassemblés.
Oui, c'est drôle. Ouais.
Un piano à queue, ça résonne un peu plus, du coup.
Ah oui.
Puis le piano là qui est utilisé, il est magnifique, le piano du théâtre de Joigny.
En concert, en règle générale, en représentation, c'est plutôt un piano à queue.
Oui.
Bah, ça a plus de cachet aussi.
Ah oui, ça c'est sûr.
C'est-à-dire que la caisse de résonance est horizontale, ça n'a pas la même propriété acoustique.
C'est logique. Vous avez sorti donc chez le label Chanteloup Musique, un label qui existe depuis 2013, cet album, qui, je le reprécise, s'appelle Classique et Compagnie. Il y a un petit peu plus d'une vingtaine de pistes. Vous avez essayé aussi de choisir un petit peu tout comme répertoire, mais c'était l'envie de faire découvrir la musique classique facilement.
Alors en fait, c'est parti d'une chose très simple, c'est qu'en fait notre petite fille qui était bercée par un mobile qui faisait de la musique classique, mais qui la faisait avec des sons synthétiques mais pas très beaux, puis avec des arrangements un petit peu disons que ça dénaturait un petit peu le thème. Et alors comme on l'écoutait en boucle, à bout d'un moment, je me suis dit, mais ça serait mieux qu'elle écoute quand même quelque chose qui soit plus conforme à la réalité et de meilleure qualité. Alors que l'idée même de lui mettre de la musique classique pour dormir, d'ailleurs, elle écoute toujours son mobile, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai que ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, mais ça serait bien de faire une compilation qui soit une belle compilation et puis qu'on ait tous ces beaux thèmes mis bout à bout. Et qu'on puisse en profiter et les déguster un petit peu.
C'est dédié à Alma, hein, voilà.
Parce que c'est elle qui. J'aurais pas eu l'idée sans elle, en fait, sans ce petit mobile qui tourne, parce que bon, on l'entend en boucle aussi.
Ce CD donc s'adresse finalement à tous les publics, hein.
Oui, et en fait, on s'est rendu compte que les seniors sont très heureux d'avoir ce CD, parce que beaucoup de personnes m'ont dit, mais on l'écoute toute la journée, ou on l'écoute pendant la voiture. Alors c'est vrai que les seniors, ils ont plus souvent de quoi écouter que les plus jeunes. Donc
le CD sera bientôt en spectacle aussi, en représentation. Ça va se faire, ou pas, classique et compagnie.
On l'a déjà donné au théâtre de Joigny.
Avant qu'il soit sorti,
mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer une petite mise en scène avec des acteurs, enfin c'est vrai, quelque chose qui permette, ou un récitant qui permette de faire des histoires autour des pièces et des auteurs.
On réfléchit un petit peu
d'expliquer un petit peu d'où vient cette œuvre, comment elle a été créée,
éventuellement. Oui, puis après même quel était son avenir, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Après on les retrouve, des chansons de Gainsbourg ou des choses comme ça. Enfin on a toutes ces airs dans la tête aussi grâce à ça. Les publicités, c'est vrai, beaucoup, mais ça leur donner leur origine et puis à trouver un petit parcours intéressant et puis ludique aussi par rapport à toutes ces œuvres. Parce qu'on essayait de les classer après par aussi par tonalité, enfin pour que ce soit un joli déroulé aussi.
Oui, il y a des allégros. Il y a.
Ça s'alterne un petit peu les atmosphères et puis on essayait de faire. Oui, voilà, des allégros qui sont un petit peu alternés avec des musiques plus lentes et plus méditatives.
Oui, des adagios, des allégros. Voilà. Il y a plus ou moins des rythmes souples, lents.
Exactement.
Adagio, en règle générale, c'est un peu plus relevé. Hein.
Oui, ça veut dire à l'aise, en fait.
Oui.
Adagio, voilà.
On se lâche.
Voilà. c'est plus libre.
On va écouter Bach maintenant avec Toccata et Fugue en Ré mineur. Quelques mots aussi sur ce titre.
Bah, d'abord, on ne sait pas si c'est de Bach. C'est l'œuvre la plus célèbre de Bach. On l'a eu par copie, une copie très tardive. C'est une partition absolument géniale. Alors là, en fait, on a, pour cet extrait, on a retenu spécialement le début qui est très saisissant. Et puis la fugue, mais un petit peu, comment dire, raccourcie. Là aussi, l'idée, c'est qu'on retienne les principaux thèmes sans entrer dans la... Parce que l'œuvre, on l'avait déjà enregistrée plusieurs fois à l'orgue, hein, on la connaît bien. Par ailleurs, c'est une œuvre qui parle tout de suite aux enfants parce que ça a été le générique de plusieurs séries télé, notamment Il était une fois l'homme.
Tout à fait.
Voilà. Et donc ça, il l'identifie tout de suite, sans savoir ce que c'est. Voilà.
D'ailleurs, nos élèves, quand ils viennent faire de l'orgue, c'est aussi parce qu'ils ont entendu ça, oui, et que tout de suite, ils, oui, veulent jouer ça. Hein.
Donc, c'est dingue parce qu'à l'époque, cette série, hein, est sortie, hein, c'est des dessins animés avec des personnages qui nous apprennent finalement à nous cultiver.
Oui.
Pour nous, c'est pas du bac, c'est un générique qui a été créé
exactement
exprès pour ce dessin animé.
Exactement.
Et finalement, quand on va faire des recherches, c'est comme les musiques de pub qu'on a évoquées tout
pareil
à l'heure. Ces musiques n'ont pas été composées exprès pour une marque de voiture, un chocolat ou autre.
Ouais.
C'est des œuvres qui sont là depuis beaucoup de décennies et qui sont encore finalement utilisées.
Tout
donc
fait.
Ça permet aussi une belle transmission et de dire que ces musiques-là, bah, c'était des grands musiciens qui créaient des œuvres magiques. Aujourd'hui, on fait moins ça, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué.
On fait peut-être des comédies musicales, bon, c'est différent, c'est une autre démarche. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est ça, ça s'apparente finalement à ce que faisaient Beethoven, Mozart et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus des comédies musicale.
Oui, c'est sûr.
Bon, ça existe toujours, les opéras, les opérettes et tout ça, mais finalement, tout ça, c'est des choses qui ont existé, que certains reprennent et revisitent.
Tout à fait, oui.
Vous allez souvent à l'opéra ou pas, ou moins, ça vous intéresse?
On y allait dans notre jeunesse, beaucoup.
Oui, on y allait parce qu'en fait, au Conservatoire de Paris, on avait une loge. Donc en fait, on pouvait réserver, et ceux qui arrivaient le premier le matin pouvaient réserver la loge du Conservatoire, qu'on avait donc gratuitement, cette jolie loge. Donc on y allait très souvent. Après, c'est vrai que maintenant, les horaires sont pas très faciles pour les musiciens.
Pour nous, c'est
compliqué,
oui, parce qu'on enseigne souvent le soir. Et donc
voilà. En fait, on est sur les créneaux où on serait disponible, parce que les opéras, c'est long. Hein.
2 heures, 3 heures.
Ouais, c'est ça.
Même voire plus, des fois.
Même voire plus, parce qu'il y a les entractes, tout ça. Enfin, c'est...
Non, t'es allé voir Hulda de César Franck, c'était 4 heures quasiment, la représentation totale.
Ah oui,
ouais.
C'est balèze. C'est...
Voilà.
J'avais jamais été donné depuis...
Il y a une pause quand même.
Bah,
Oui, on a plusieurs pauses.
De boire quelque chose,
oui.
D'aller faire autre chose aussi.
Ouais. On n'a plus tellement l'habitude hein, quand même d'avoir des pièces qui soient aussi développées.
On parle ce matin de l'album Classique et Compagnie sur IDFM Radio avec nos deux invités du jour. Nous sommes toujours avec Marie-Ange Laurent et Éric Lebrun. L'album s'appelle, donc je le reprécise, Classique et Compagnie, 23 paraphrases à 4 mains. Écoutons maintenant donc Bach.
Thank you.
Bach sur UDFM Radio avec Toccata et Fugue en Ré mineur. C'est un extrait de l'album Classique et compagnie à découvrir aujourd'hui sur UDFM Radio. Un album à quatre mains avec Marie-Ange Laurent et Éric Lebrun. Vous avez enregistré finalement cet album où ?
Au théâtre de Joigny, en fait, la salle de Claude Debussy plus exactement. Et c'est un très très bel auditorium avec un piano magnifique. La ville de Joigny est par ailleurs très belle, alors nous sommes très reconnaissants au directeur des affaires culturelles, qui est aussi directeur du conservatoire, de nous avoir donné cette occasion d'enregistrer là-bas.
Donc ça a duré une petite journée, une petite demi-journée.
Une journée. Oui.
Qui a fait des fausses notes de temps en temps ?
Ah bon, il y a toujours des... Quand on fait un enregistrement, il y a toujours des choses à perfectionner, c'est pour ça qu'on prend la journée.
Ouais. Donc, 23 pistes, hein, je le reprécise, vous finissez en apothéose, j'ai envie de dire, avec Vivaldi, Le Printemps, qui
oui,
se rapproche voilà. À grands pas, en plus.
Oui.
Voilà, c'est frais, c'est dynamique. Et puis, alors là, pour le coup, tout le monde connaît ce thème-là. On ne sait pas comment, mais enfin, c'est passé vraiment dans la culture populaire, on va dire.
Mais il y a un ordre précis, quand même. Vous êtes tenu une ligne particulière.
Oui, l'enchaînement des différentes tonalités, comme vous disiez, des mouvements, les mouvements lents, les mouvements rapides. Voilà, tout ça a été élaboré. C'est Marie-Ange hein, qui a élaboré ça, je dois dire. C'est son travail.
Ça aussi, du coup, ça prend du temps, Marie-Ange.
Ah oui, parce que déjà...
De se creuser la tête, de se dire, on démarre avec ça, on met ça au milieu et on termine par ça. Ah ben non, on va pas commencer par ça. Oui.
Ah oui, ça prend du temps. Mais bon, à la fois, quand on fait des programmes de concert, c'est aussi le principe. Donc, en fait, on a l'habitude, mais quand même, c'est vrai que c'est un gros travail. Et puis, en plus, comme je voulais que ce soit des extraits d'œuvres... Enfin, souvent, tout n'est pas des extraits, mais enfin, après, il fallait bien choisir les extraits, bien les arranger. Alors bon, tout c'est. Puis il y a des petites choses qui sont aussi écrites par moi, par rapport dans le style. Hein. Mais enfin, il y a des petites conclusions, par exemple, dans l'Adagio d'Albinoni. Bah, c'est pas l'Adagio d'Albinoni, la fin, c'est une petite conclusion.
Oui, vous maison, vous permettez de temps en temps quelques
et...
petits écarts, mais qui vont pas dénaturer.
Ah, du tout, non, qui reste bien dans le
mais
style.
Mais c'est vrai que chaque pianiste apporte de toute façon sa patte.
Absolument.
C'est pas à chaque fois du copier-coller. On essaye que ce soit bien évidemment au plus proche de l'original, mais aussi avec finalement son doigt. Et puis sa personnalité. Alors ça peut pas forcément se ressentir comme ça, c'est pas forcément évident, mais vous le savez en tout cas.
Oui.
Et entre vous deux aussi.
Oui, absolument.
Donc ça a fait un effet presque waouh, magique entre vous deux. Oh là là, tu as réussi à faire quelque chose de limite mieux que Vivaldi, Mozart ou Bach. Peut-être, je ne sais pas, je dis
on
ça.
On reste
mais...
bien modeste.
Oui.
Bien sûr.
En tout cas, vous avez étudié aussi la musique classique. On démarre par ça, de toute façon, quand on fait le conservatoire. Vous nous l'avez dit, vous avez appris très jeune à faire du piano. 5 ans pour vous, hein. Vous aviez 5 ans.
Oui, j'avais 5 ans. Nous,
mais vous avez appris comme ça, en fait.
Notre génération, on apprenait vraiment, enfin, les conservatoires, c'était vraiment la musique classique. Maintenant, nos élèves, ils veulent faire autre chose. Et c'est très bien. D'ailleurs, on découvre beaucoup avec eux toutes les musiques un peu plus moderne, les musiques de jeux électroniques, enfin de tout en fait. Et en fait, c'est ça qui est assez génial aussi, c'est que maintenant, en fait, on pense qu'on est très ouvert sur toutes les musiques en fait.
Mais bon, on est obligé quand même de passer par les notes, hein. Les blanches, les noires,
do,
ré, mi, fa, sol, la, si.
Ça, c'est obligé.
Ça, c'est obligé, bien évidemment. Oui. Ça s'apprend. C'est sympa à apprendre
bien
en plus.
Sûr. Bah, c'est un peu le problème des conservatoires, c'est que les élèves, ils rechignent à aller aux classes de formation musicale, qu'on appelait avant solfège. Et du coup, parfois, ils veulent arrêter la musique à cause de ça, alors qu'ils se rendent pas compte que la grammaire, en fait, bon, une fois qu'on l'a, on l'a. Hein, c'est pas très compliqué, en fait, mais bon, ils rechignent un
pas
petit
tous.
Peu. Pas tous. Ça dépend.
Non,
ça dépend.
Ça dépend. Bon, c'est vrai qu'il y a, c'est comme une langue étrangère. Voilà, c'est-à-dire que il faut passer un certain stade pour avoir le minimum de vocabulaire et après on se fait vraiment plaisir. Voilà, mais
c'est pour ça que c'est mieux de démarrer jeune.
Exactement.
Oui, oui.
Très tôt.
Exactement, on apprend beaucoup
parce qu'on enregistre plus facilement.
Ah, les langues étrangères, oui, on les enregistre.
Ah oui, ça,
donc
sûr,
la musique aussi.
Plus c'est jeune et plus c'est
la musique, c'est plein de portées, oui, effectivement, c'est en haut, c'est en bas, c'est à l'envers, mais il faut apprendre la musique. Voilà,
oui,
ça
oui.
Oui, bien
oui.
Sûr, puis après, c'est, on a beaucoup plus de plaisir.
Mais il y a des jeux à apporter de toute façon.
Bien sûr.
Pour les jeunes qui sont peut-être un peu réticents.
Ah bah, oui, Marie-Ange, elle a inventé plein de jeux, des jeux de cartes, avec des, oui, ça, alors là.
Oui, avec des chansons, tout ça, puis on s'amuse bien. En fait, bon, c'est, au bout du compte, c'est amusant, hein, c'est vrai. Mm. C'est un peu ludique. Si on le prend comme ça, ça va. C'est...
Vous avez d'autres projets à côté de Classique et compagnie ?
Mon Dieu, oui. On doit finaliser l'intégrale de l'œuvre de Bach pour orgue.
Oui, c'est ce que
voilà.
Disais.
C'est un monument. Hein.
Marie-Ange déjà.
Un gros travail. On a aussi, parce que Chanteloup, ce sont aussi des partitions de musique. Et nous avons un catalogue, d'abord nos propres productions, mes compositions d'un côté, les œuvres pédagogiques de Marie-Ange, que j'utilise en tant que professeur moi-même beaucoup, et notamment un recueil qui est en train d'être finalisé sur des chansons populaires adaptées pour le piano.
Oui, pour le clavier, avec des adaptations jolies, avec un petit peu d'improvisation, tout ça. Enfin,
c'est très, très, très joli.
C'est assez sympathique.
Donc, il y a beaucoup de projets à mener à leur terme, là.
Et surtout, c'est vrai que, en fait, la partie pédagogique, c'est une grosse partie de notre entreprise. Et, par exemple, on a une méthode d'alto qui marche très bien parce qu'elle est très ludique aussi. Hein, les disques qu'on a fait aussi pour les tables de multiplication, tout ça, c'était des... c'était pour les enfants parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a un fils qui avait des problèmes d'apprentissage, des soucis. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est beaucoup porté là-dessus parce que moi, je apprenais tout avec des chansons, avec un petit magnétophone à cassette. J'ai inventé les chansons et puis il écoutait ça le soir en s'endormant. Puis le matin, c'était bon, il savait tout. Puis il les connaît encore. En fait, il a 30 ans, mais il se rappelle encore de ces petites chansons.
Ces méthodes sont encore disponibles de toute façon.
Oui, on les trouve facilement.
Oui.
Vous avez un site de toute façon.
Sur le site chanteloupmusique.org ou .com et aussi sur, en fait, dans tous les magasins qui vendent des produits culturels, on peut trouver. Alors, pas forcément dans les magasins parce que maintenant les rayons sont de plus en plus réduits.
C'est vrai.
Mais en tout cas sur Internet, sur Amazon, sur Fnac, sur Leclerc, etc., Cultura, on trouve tout ça.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être passés aujourd'hui sur IDFM Radio. Marie-Ange Laurent et Eric Lebrun, on se quitte avec Forêt, Pavane.
Oui.
Qui nous en dit quelques mots?
Alors, la Pavane de Forêt, c'est une œuvre. C'est l'opus 50 de Forêt, donc c'est vraiment au centre de sa production. Et c'est une œuvre qui a connu un succès assez immédiat, à tel point que Robert de Montesquieu a ajouté des paroles pour qu'elle soit chantée, qu'elle soit redonnée dès le lendemain de sa première audition. Et c'est une musique tout à fait charmante. Et Ravel, qui a été l'élève de Forêt, s'en est inspiré pour la pavane d'une infante défunte. La pavane, c'est une danse lente, en fait, à l'origine, une danse lente à la Renaissance, notamment.
Vous avez une œuvre que vous appréciez plus qu'une autre, par exemple, Marie-Ange ou pas ?
Oh, moi, j'aime beaucoup tout, en fait. Non, j'ai pas spécialement d'œuvres que j'apprécie plus. Non, j'aime bien toutes les musiques.
Et Eric Lebrun ?
Alors, je dois dire que je suis venu à la musique sérieusement. Enfin, c'est ma vocation, c'était après avoir entendu la symphonie inachevée de Schubert. Voilà, alors je l'écoute plus très souvent maintenant, mais je me souviens très nettement que ça a été vraiment le déclencheur de ma vocation musicale.
Merci encore à vous deux.
Avec plaisir.
Et on se quitte avec Forêt, extrait de votre album Classique et compagnie, 23 paraphrases à quatre mains. À très vite sur IDFM Radio.
Merci. Thank you.
Quelques airs de musique classique à l'instant, c'était pour vous faire découvrir le projet Classique et Compagnie. Merci encore à Marie-Ange Laurent et Éric Lebrun, IDFM Radio. Si vous aimez la musique classique, il y en aura davantage avec notre spécialiste Christophe Gravreau de 11h à midi. Dans un instant, on va vous faire voyager à Paris comme régulièrement dans le 7e arrondissement, 30 rue de l'Université, pour vous faire découvrir la House of Mina Halima. Mais qu'est-ce que c'est ? Elle nous en dira davantage. Notre prochaine invitée, présidente des éditions Gallimard Jeunesse, Edwige Pasquet. Je l'ai interrogée il y a quelques jours. C'était en début de semaine à Paris, au sein de la galerie qui appartient à la maison d'édition Gallimard, IDFM Radio.
Tac, pitac, pitac, tac, pitac, pitac, tac, pitac, pitac, tac, pitac, pitac. Du coca, du coca, du coca, du coca. Du coca, du coca, mon pageant ou un timon m'a consa. Du coca, du coca, du coca, du coca, du coca, du coca, mon pageant ou un fouillé à consa.
Oula, oula,
vous avez la caveille,
c'est
tout ça mon café,
c'est
tout ça mon café,
c'est
pas sous la terre,
pas
le monde est tué.
Mas
a diosa, foco cadê Rafael? Ticoca, 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 que mon leu se é com sa.
Mas
a diosa, vieta pisa, animoia e pio mamãe. Ticoca, 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 que mon leu se é com sa.
Mas
a diosa, vieta pisa, animoia e pio. Ticoca, 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 ticoca. Ticoca, mon pageant ou un timon m'a consa. Ticoca, 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 mon pageant ou un fouillé à consa.
IDFM Radio, aujourd'hui nous sommes à Paris, à la galerie Gallimard. Nous sommes pas très très loin du métro rue du Bac. Nous sommes plus précisément dans le 7e arrondissement et c'est le 30 rue de l'Université où nous allons découvrir aujourd'hui la maison, la House of Mina Halima. Mais qui est ce duo de magiciens, un duo qui a créé beaucoup de choses? C'est les scénographes en fait de l'univers Harry Potter. Ils étaient d'ailleurs à Paris en octobre dernier pour l'inauguration, l'ouverture en fait. C'est un pop-up store, c'est une galerie un peu éphémère qui appartient aux éditions Gallimard et qui propose régulièrement des expositions, peut-être tous les 6 mois. On va poser la question justement à la présidente de Gallimard Jeunesse, Edwige Pasquet. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici dans cette galerie que vous transformez régulièrement, 2 à 3 fois dans l'année.
Ah, même plus souvent, si vous voulez, ça dépend effectivement des expositions. Il y en a qui peuvent durer, comme celle-ci, depuis le mois de novembre, jusqu'au 9 mars. Au contraire, des expositions qui peuvent être plus courtes. Vous avez Martine après, vous avez les drôles de petites bêtes après, qui vont arriver au mois d'avril, pour les 30 ans, les drôles de petites bêtes. Ou alors, vous avez eu des expositions sur Céline, bien sûr, au moment de la parution de ces inédits, ou sur Saint-Exupéry, ou sur des grands auteurs de Gallimard. En fait, c'est une galerie Gallimard, et Antoine Gallimard a souhaité retrouver une tradition Gallimard qui avait été créée par son grand-père. Il y avait des galeries chez Gallimard en 1931 où vous aviez eu un certain nombre d'auteurs, de mises en valeur, avec Malraux. Il avait monté cette galerie avec Malraux, puis c'est l'objet qui avait été ramené avec les Malraux. Donc si vous voulez, la tradition d'une galerie pour la mise en valeur des archives de Gallimard, des auteurs de Gallimard ou des publications de Gallimard est une tradition. Et là, vous pouvez en avoir 3, 4, 5 fois par an. Donc en ce moment, Mina Halima.
Oui, on va aller découvrir dans un instant. La rue de l'Université, finalement, c'est un peu votre rue, où juste à côté, vous avez aussi vos bureaux. Hein.
Absolument. Les éditions Gallimard qui sont là depuis plus d'une centaine d'années. Qui ne connaît pas Gallimard, bien sûr. C'est une des maisons d'édition française caractérisées par la qualité de sa littérature. Ce sont vous avez un nombre d'auteurs de Nobel qui ont été publiés chez Gallimard, qui est très impressionnant, que ce soit des auteurs comme récemment Modiano, Le Clésio, Annie Ernaux, bien sûr, voilà, ou des auteurs qui ont été traduits. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une très grande maison d'édition française. Vous avez encore récemment Fuenquinoz qui vient d'être publié, au même titre que Pénac. Donc, Gallimard existe. Gallimard est à peu près est en tête des éditeurs français, mais ce qui a la caractéristique d'être une maison familiale par rapport à des grands groupes comme Hachette, Editis ou autres dont on entend parler dans la presse, entendu parler plus récemment. Voilà.
Comment vous êtes arrivé très rapidement?
Vous savez que voilà, il y avait une époque où, j'allais dire, on tombait dans l'édition comme un peu dans un peu potion magique, je dirais, ou un petit peu par hasard. Il n'y avait pas de formation pour l'édition. Aujourd'hui, vous avez clairement Viltaneuse, enfin un certain nombre d'universités qui préparent l'édition. Ça n'était pas le cas. J'aimais beaucoup les livres pour enfants et j'avais monté un jardin d'enfants pour la jeunesse. Donc voilà, c'était une petite expérience en parlant anglais qui a fait que par hasard j'ai eu cette opportunité qui s'est avérée durer contre toute attente.
Vous avez toujours été présidente de Gallimard Jeunesse?
Non, pas du tout. Pas du tout. Au début, je suis rentré, vous savez, comme on rentre quelque part, commencer à travailler, et puis au fur et à mesure, vous apprenez, vous découvrez, vous êtes émerveillé. Et j'ai eu la chance de travailler avec un très très grand éditeur qui s'appelait Pierre Marchand. Et qui avait fondé Gallimard Jeunesse en 1972, il y a pratiquement une cinquantaine d'années, et qui a donné un essor incroyable d'ailleurs à l'ensemble de la littérature de jeunesse, dans la mesure où ils étaient deux, Pierre Marchand et Jean-Olivier Héron, qui avaient souhaité mettre à disposition des grands auteurs de Gallimard, du catalogue Gallimard, et de les ouvrir à la jeunesse en faisant des éditions illustrées, avec des couvertures qui, à l'époque, étaient des couvertures qui étaient illustrées par les plus grands publicitaires, les illustrateurs qui faisaient travailler pour la publicité, publicistes, justement donner un accès plus facile aux jeunes de tous ces auteurs. Et c'était la première collection qui existait chez Gallimard Jeunesse. Et puis, ils avaient une autre ambition aussi, c'était de créer une très grande encyclopédie documentaire familiale qui s'est avérée être découpée suivant les âges. Si vous voulez, ça n'est pas être une très grande encyclopédie, mais au contraire, très grand nombre de collections de documentaires qui étaient lancées, dont pour les plus petits, mes premières découvertes jusqu'aux découvertes Gallimard. Voilà, donc vous avez beaucoup de gens qui ont été élevés avec toutes ces collections et qui perdurent aujourd'hui avec mes premières découvertes animées, mon imagerie animée. Il y a une tradition du documentaire chez Gallimard qui a évolué, bien sûr, puisque Pourquoi est-ce qu'un éditeur perdure et comment est-ce qu'un éditeur vit et évolue? C'est qu'il s'adapte au public de son temps. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la littérature de jeunesse est influencée par l'évolution de la société. Voilà. Donc, nous avançons avec l'évolution de la société, les livres changent, les livres ne sont pas les mêmes, mais c'est toujours aussi passionnant.
Et il y a plus de 20 ans, Gallimard signe avec J.K. Rowling cette saga Harry Potter.
Absolument, il y a 25 ans maintenant. Harry Potter rentre dans le catalogue de Gallimard Jeunesse. Nous venons de fêter ces 25 ans, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi 25 ans plus tard, Harry Potter est tout aussi important qu'il y a 25 ans. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, c'est que déjà, cette histoire de fantasy, dans le domaine de la fantasy, est une histoire qui est très animée. C'est une autrice qui est incroyable, J.K. Rowling. Elle a créé ce monde, mais finalement, le monde de la magie, il est plus proche du quotidien que le monde du quotidien qui est complètement, qui ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'est une première caractéristique, mais surtout les valeurs qu'elle a mis en évidence, qui ressortent de son œuvre, ce sont des valeurs qui sont totalement intemporelles et universelles. Vous prenez l'amour, l'amitié, la liberté, la résilience, parce que Harry Potter n'est pas un héros. Il signe la résilience. Elle a mis en valeur le savoir. Si Harry Potter, Hermione et Ron se tirent de leurs aventures, c'est bien parce que Hermione est une élève excellente et a appris énormément de choses. Effectivement, tous ses cours lui servent. La solidarité. Il y a une solidarité incroyable dans cet ouvrage. Ce sont que des valeurs qui sont toujours d'actualité et qui fascinent. Et puis elle a un style qui n'existe, qui est unique, et elle a un talent incroyable pour inventer des termes, des noms, pour les lieux, les animaux, les personnages. C'est un monde imaginaire fabuleux.
Donc aujourd'hui, il y a cette exposition qui met en avant le travail de ce célèbre duo Mina Lima.
En fait, ils ont fait quelque chose de très particulier. C'est un duo de graphistes, de grands artistes, je dirais même. et ils ont fait tout le visuel des films Harry Potter. Mais quand vous dites le visuel, c'est aussi bien une plaque de rue qu'une affiche de cinéma, que les livres que les élèves trouvaient à Poudlard, l'ensemble de ce visuel qui a fait les films Harry Potter. Alors à côté, vous aviez des costumières, vous aviez un réalisateur, vous avez beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces ouvrages. Mais eux, leur caractéristique, c'est de développer un visuel. Alors pour ce visuel, ils se sont inspirés d'œuvres existantes de toutes les époques. Beaucoup, quand vous regardez l'importance de la typographie dans les ouvrages, de toutes les lettres qui sont mises en valeur, qui sont influencées par un certain nombre d'époques et autres, cet ensemble visuel met en valeur et donne une autre lecture aussi d'Harry Potter, accompagne la lecture visuelle d'Harry Potter dans les films. Voilà, c'est leur talent.
Ils sont venus donc dernièrement du Royaume-Uni pour présenter leur travail ici, dans cette galerie.
Parce qu'à partir de toute cette expérience qu'ils ont acquise au fur et à mesure en accompagnant les films de J.K. Rowling, ils ont fait, pour l'instant, les trois premiers livres illustrés, les trois premiers de Harry Potter. Alors, c'est à chaque fois des recréations, mais qui redonnent une nouvelle lecture d'Harry Potter. Et en même temps, ils ont effectivement illustré tous les contes classiques, que ça soit récemment, là, qui viennent de sortir La Belle et la Bête et Alice au Pays des Merveilles au mois de novembre, où ils avaient fait précédemment Peter Pan, Le Livre de la Jungle, et vous retrouvez toutes ces illustrations qui font rêver, qui sont très animées, qui sont extraordinaires. Ces ouvrages sont des ouvrages animés, c'est-à-dire que dedans, vous avez des petits dépliants, vous avez des cartes que vous ouvrez, vous avez un certain nombre d'éléments.
C'est à moitié un livre pop-up.
Pourrait l'appeler un livre pop-up, un livre animé, si vous voulez, mais qui rend d'autant plus vivant le texte. Voilà.
Mais à la base, ils n'avaient pas trop imaginé ces livres sur la saga Harry Potter. Ils avaient plutôt démarré avec des contes traditionnels comme Peter Pan, le magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles.
En fait, leur première expérience, il y a 25 ans, était quand même de travailler sur les films.
Oui, sur les films. Mais ils n'avaient pas sorti des livres forcément avec des illustrations.
Absolument. Les livres sont beaucoup plus récents, tout à fait.
Ils ont sorti des livres plutôt avec La Belle et la Bête.
Absolument. Ils ont démarré l'édition avec les contes traditionnels.
Donc, il y a plusieurs espaces avec des tableaux, des cadres, des cartes postales, les livres.
Non seulement vous avez les livres, mais vous avez un certain nombre d'objets qui proviennent, alors que ça soit des petites affiches, des prints, des tote bags, du tissu, énormément de cartes postales, des éléments visuels, des objets qui sont déclinés de toute cette œuvre qui développe dans les livres.
Absolument. On va se déplacer, on va aller peut-être un peu plus dans le fond pour faire découvrir les objets qui sont actuellement en vente, exposés ici, à la galerie Gallimard. IDFM Radio, à tout de suite.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger.
Soy aquella persona que pasen los años. Voy a aprender a volar y tú no me vas a frenar. No voy a vivir encerrado, no era lo que me imaginaba.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
Si soy así, me da lo mismo. así, me da lo mismo. Si soy así, me da lo mismo.
FM Radio, nous sommes toujours avec Edwige Pasquet, présidente de Gallimard Jeunesse. On est toujours au sein de la galerie qui se trouve aux 30 rues de l'Université à Paris, dans le 7e arrondissement, pour vous faire découvrir l'univers du célèbre duo Mina Lima. Vous avez décidé d'appeler aussi cet endroit, la House of Mina Lima. C'est comme ça que s'appelle aussi, parce qu'au Royaume-Uni, il y a
ils ont ouvert une galerie qui s'appelle The House of Mina Lima, absolument. Et c'est un petit peu leur antre dans lequel ils peuvent exposer toutes leurs créations. Et qui sont innombrables. Et si, c'est une sélection, bien sûr. Mais c'est une sélection déjà assez complète.
Tout est bien pensé, même la tapisserie des murs.
Ah, mais c'est eux qui ont même envisagé la décoration de la galerie et qui sont venus avec tous les éléments d'Angleterre pour poser dans la galerie.
Sur une partie du mur, il y a des cartes.
Des cartes. Vous retrouvez la carte du maraudeur, vous retrouvez un certain nombre de cartes. Ici, vous retrouvez la fameuse des éléments de la tapisserie.
On les voit aussi, on les découvre. Dans deux cadres.
Eux-mêmes, effectivement, dans un paysage un petit peu magique, je dirais, puisqu'on retrouve son chapeau, là. C'était un magicien. Et elle-même, voilà, qui laisse penser. Vous avez quand même des petites photos qui montrent la réalité, mais c'est pas très éloigné,
oui,
ces portraits.
Fait. Et puis le cri de la gargouille, par exemple, le journal.
Bah, bien sûr, un célèbre journal, là. Effectivement. Et alors, c'est là où
qui bouge, qui est vivant en plus.
Bah, bien sûr, c'est ça qui est extraordinaire. Et vous voyez toute la typographie, les illustrations, tout est très soigné. Si vous voulez, à chaque fois, rien n'est laissé au hasard. C'est tout un travail fantastique qui est fait à chaque fois, si vous voulez. Ici, vous imaginez sur toutes les potions magiques, les différentes petites étiquettes qui existaient. Vous avez la potion numéro 7, 25 et autres. Et puis, alors, vous avez aussi, par exemple, pour toutes les baguettes magiques, parce qu'il y avait des baguettes magiques.
Non, j'ai pas vu les baguettes.
Alors, il n'y en a pas là, ici. Mais vous avez
effectivement
toutes les étiquettes qui existent et qui sont incroyablement illustrées pour bien...
Tout est bien pensé, tout est bien réfléchi pour donner une ambiance aussi un peu vieillissante à certains objets.
Il y a un côté un peu vintage, je dirais aussi.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Des cartes postales aussi, c'est vraiment des objets finalement collector qui vont plaire à la fois à ceux qui connaissent pas forcément l'univers et aux fans.
Et aux fans, complètement. Mais en fait, même des gens qui ne sont pas forcément fans, qui ne connaissent pas forcément l'œuvre d'Harry Potter, sont séduits par le graphisme. C'est un graphisme qui est très fort et qui est très impressionnant. Là, vous avez des petits porte-clés, vous avez...
L'univers des animaux fantastiques est représenté, bien évidemment, aussi.
Bien sûr, bien sûr. C'est dans le prolongement d'Harry Potter, puisque ça se passe 70 ans avant Harry Potter. Vous avez effectivement les différentes choses.
Il y a un livre aussi assez intéressant où il y a l'histoire, finalement, de ce duo Mina Lima.
Et surtout, la manière dont ils travaillent. Et derrière chaque illustration, chaque réalisation, ils vous disent tout ce qui a pu les inspirer, tous les éléments qu'ils ont retrouvés, où est-ce qu'ils ont retrouvé, parce qu'ils ont fait tous les marchés opus du monde entier. Ils sont même venus à une époque ici, vous savez, le deuxième film, il y avait une partie qui était tournée à Paris. Ils sont venus dans les archives des éditions Gallimard consulter toutes les publications des années 1930 avec les éditions reliées, les illustrations qu'il y avait sur les éditions reliées, voilà, qui ont pu les inspirer.
Est-ce qu'on peut aussi quand même ici se procurer les livres originaux ou c'est vraiment uniquement la traduction
Non, ils n'existent pas en anglais. Nous ne les diffusons pas en anglais. Ce sont les éditions françaises qui sont ici.
Oui,
absolument. Tout à fait.
La boutique donc qui est ici, la galerie, va partir en mars, hein, vous l'avez dit, pour une autre destination. Ce sera plutôt Martine, je crois.
Alors, Martine arrive effectivement au mois de mars. Et après, parce que ce sont les 80 ans de Martine cette année. Et après, vous avez...
Elle ne les fait pas. Elle toujours pas.
Surtout son petit côté espiègle reste. Et puis, vous avez les 30 ans des Drôles de Petites Bêtes, dans Cousin Crinks, Loulou le Pie, Pou... Loulou le Pou, Mireille l'Abeille, qui n'a pas été élevé avec ses ouvrages.
Pour Harry Potter aussi, constamment, chaque année, il y a des nouvelles,
bien sûr,
éditions, des rééditions,
bien sûr,
agrémentées en fait.
Tout à fait. Et puis nous publions aussi des ouvrages qui accompagnent ces éditions d'Harry Potter, et qui sont des ouvrages qui sont faits un petit peu comme La Magie de Minanima, ou d'autres ouvrages qui sont faits effectivement avec tout ce travail graphique qui existe, des films, et qui permettent de faire les secrets de tel film, La Carte du Maraudeur. Nous avons publié La Carte du Maraudeur avec une baguette magique, et des livres de cuisine d'Harry Potter, des calendriers d'avant d'Harry Potter. Il y a tout un nombre d'ouvrages que nous pouvons publier.
Et ben merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Donc c'est toujours aussi magique, et effectivement, et il y a combien de produits exposés, beaucoup en tout cas. Ça, c'est des produits que vous avez récupérés de ce duo, du coup, qui sont arrivés il y a quelques mois déjà.
Voilà.
Ça, c'est les cartes, non ?
Non, ce sont, vous savez, des petites cartes cadeaux.
Voilà.
Ah, d'accord. Vous pouvez faire un cadeau, vous pouvez mettre le nom de la personne. Ici, vous avez des serviettes, des tote bags.
Eh bien, merci beaucoup.
C'est toujours sophistiqué et très beau. Voilà.
Merci beaucoup,
merci à vous.
Edwige Pasquet.
Merci d'être venu.
Et donc, c'est gratuit, hein, l'entrée de la galerie Gallimard.
Bien sûr.
Ici à Paris, dans le 7e. Jusqu'au 9 mars.
Jusqu'au 9 mars, absolument. Ouais.
Merci encore.
Merci.
À bientôt sur IDFM Radio.
D'accord, écoute-moi. Chez les humains, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que ce qu'ils ont sur terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là-haut ils bossent toute la journée, esclavagés et prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous, les poissons se fendent la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là-haut, ils s'écaillent et ils flippent à tourner dans leur bocal. Le bocal, faut dire, c'est l'extase chez leurs copains cannibales. Si monsieur poisson n'est pas sage, il finira dans la poêle. Oh non! Sous l'océan, y'a pas de coubouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non. Sous l'océan, y'a pas d'hameçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan.
Sous l'océan.
Hey, sous l'océan. Mais oui, la vie est super, mieux que sur la terre, je te le dis.
Je te le dis.
Tu vois, les sturgeons et la raie se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est de la dynamite sous l'océan. Triton, oh, flutio, la carpe joue de la harpe, la race casse la basse, c'est les rois du rap. Macro, oh, saxo, turbo, oh, bongo, le lieu est le dieu de la soul. Oui, l'arrêt, oh, tube, le gardon, oh, violon, les sols, rock and roll, le ton, garde le ton. Le bar et le sprat se marrent et s'éclatent, vas-y, souffle mon doutou. Pour faire une gym jam sous l'océan, les limaces des mers au rythme d'enfer sous l'océan, et les bigorneaux pour donner le tempo, c'est frénétique, c'est fantastique, on est en train de se frotter, ça balance sous l'océan.
Ça ça vient de sortir, c'est tout beau, c'est tout chaud, ça y est. Les enfants l'attendaient, la sortie du DVD ou encore du Blu-ray, la Pat Patrouille, la Super Patrouille. Un véritable succès, un énorme carton sur l'année 2023. Les adorables chiots de la Pat Patrouille qui ont des pouvoirs dans ce nouveau film. Nous avons rencontré quelques-unes des voix françaises, notamment Marianne James. Vous allez l'écouter, l'entendre dans un instant. Avec la sortie de ce DVD ou Blu-ray, la Pat Patrouille, la Super Patrouille, IDFM Radio, c'est l'émission de la famille jusqu'à 9h30.
J'ai qu'une novague à l'âme, mon ami, mon amour. J'ai le cœur à l'envers, ivoire ou velours. Le nez en l'air, je flâne, je gâte aux alentours. Le cœur à découvert, en attendant ton retour. On se fait du mal, on se fait du bien. Les mois divaguent, on n'y comprend rien. On se fait du mal, on se fait du bien. C'est comme une vague, nous deux, ça va, ça vient. C'est toujours toi qui dis que c'est toujours moi. C'est toujours l'autre, alors à qui? À qui la faute? Toujours moi qui dis que c'est toujours toi. Mais pourvu qu'un jour, nos dilemmes se comprennent. Et sauf hier, sauf hier. Entre la rose et l'épine, mon ennemi, mon amour. J'ai la gorge qui se serre et le souffle court. Au fond de ma rétine, tu lis la nuit, le jour. Et mille carabines quand je me ferme à double tour. On se fait du mal, on se fait du bien. Les mois divaguent, on n'y comprend rien. En fait, on se fait du mal, on se fait du bien. C'est comme une vague, nous deux, ça va, ça vient. C'est toujours toi qui dis que c'est toujours moi. C'est toujours l'autre, alors à qui? À qui la faute? Toujours moi qui dis que c'est toujours toi. Mais pourvu qu'un jour, nos dilemmes se comprennent. Et sauf hier, sauf hier. Un jour, tu pars, l'autre, je reviens. Plus on s'égare, plus on se retient. En fait, un jour, je pars, l'autre, tu reviens. Comme sur une balançoire, nous deux, ça va, ça vient. C'est toujours toi qui dis que c'est toujours moi. C'est toujours l'autre, alors à qui? À qui la faute? Toujours moi qui dis que c'est toujours toi. Mais pourvu qu'un jour, nos dilemmes se comprennent. Et sauf hier, sauf hier, sauf hier, sauf hier, sauf hier.
IDFM Radio, et maintenant c'est l'heure de retrouver Marianne James. Elle prête sa voix à l'un des personnages du film d'animation La Pat Patrouille, la Super Patrouille, en DVD depuis mercredi dernier. Elle nous parle de ses shows préférés.
Moi, j'ai surtout deux chiens que j'adore. Il y a Ruben, le bulldog, parce qu'il a toujours faim, et qu'il a des pelleteuses, et que lui, ce qu'il aime, c'est faire des trous et construire. Et voilà, il a son caractère, puis j'aime bien les bulldogs. Et puis, il y a celui que j'adore, c'est Rocky, celui qui nettoie tout. Enfin, lui, il recycle. On jette rien, on recycle. Puis, j'aime bien la couleur verte. Voilà, c'est mes deux préférés.
Marianne James, maintenant, vous avez l'habitude de l'univers des enfants, de la jeunesse. Tati Jambon, pour l'instant, vous êtes à fond sur votre spectacle. On va en parler d'ici quelques minutes. Mais juste avant, le personnage de Janet. Donc, elle est mariée à Hank, un couple qui s'aime à la folie. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu ce duo de choc?
Le couple américain, elle n'est pas très grande. Elle est toute ronde, avec un carré de cheveux orange. Lui, il est très grand, plutôt placide. Elle est au taquet. C'est normal qu'on m'ait demandé. Donc, du coup, c'est une bavarde très joyeuse qui répond au téléphone dans son entreprise de ferrailleur. Et ils sont dans un sort de mobil-home dans lequel il y a le bureau. Et elle répond très, très gentiment à toute la clientèle. Et tout d'un coup, il y a un voleur qui arrive. et qu'il leur vole leur grue principale. Et en volant la grue principale, parce qu'il ne sait pas s'en servir, il est masqué, le voleur. Ça déclenche avec des bouteilles de gaz à côté du mobilhome. Ça bloque la porte de sortie du mobilhome et le mobilhome prend feu. Donc, ce téléphone qui est encore là, qu'elle avait tout chaud encore dans la main, elle appelle, hystérique, la patrouille qui va intervenir, bien évidemment, éteindre le feu et surtout ouvrir la porte pour sauver Hank et Janet. Et on a eu très peur. J'ai eu la chance de doubler déjà 4 fois des dessins animés puissants comme Madagascar 3, où j'ai joué le rôle principal de la méchante là, qui veut descendre tous les animaux. J'ai eu la Chantal, la femme flic. Voilà, elle est très méchante. Et donc, c'est moi qui l'interprète, bien évidemment. J'ai eu la chance de faire Madame Astrakhan, professeure de chant russe dans Happy Feet, le premier. Ça, j'ai adoré faire ça, la prof de chant dans les icebergs, qui fait tout briser la glace avec sa voix et qui essaye d'apprendre aux petits pingouins, aux petits personnages d'arrêter de chanter avec ses pieds et de chanter avec sa voix. Autrement, personne ne le reconnaîtra. Il ne sera jamais adoubé par la famille. Toujours la famille, hein, la famille. Donc moi, j'ai l'habitude de faire du doublage et j'adore ça.
Comme dans votre spectacle, finalement, vous expliquez au public qu'on chante pas avec ses pieds. Hein. Le spectacle, c'est tout est dans la voix.
Merci Maria James, le 10 mars à Enghien-les-Bains au Théâtre du Casino. Et puis maintenant, on va écouter un petit peu Sophia Essaïdi, qui pour la première fois prête sa voix à un personnage d'un film d'animation.
Mais en tout cas, ça ne fait pas de moi une savante zinzin. C'est bien clair. Cool.
J'ai adoré jouer ce rôle. C'est la première fois pour moi, et méchante, et film d'animation, doublage de film d'animation. C'est génial, je me suis amusée comme une gamine. On a modulé la voix, elle est folle, elle crie dans les aigus, elle descend grave dans les graves. Enfin, c'était une expérience.
Le tournage, en règle générale, une demi-journée, une journée entière pour les différents dialogues de ce
plusieurs
personnage.
Jours, oui, on a plusieurs jours, bien sûr. Et encore là, on est allé assez vite. Il me semble que ça peut être beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que le rythme est assez soutenu. Et puis surtout un rôle comme ça, c'est un rôle haut en couleur. Elle n'est jamais tiède. Elle ne parle jamais doucement. C'est ou bien elle est dans les graves et elle est habitée, ou bien elle est folle dans les aigus. Donc c'est vrai que ça a été, c'était très physique. Comme interprétation, quand on double du matin jusqu'au soir et qu'on n'arrête pas de crier toute la journée, qu'on n'arrête pas, c'était hyper physique et hyper intense. Je pense que j'ai eu de la chance pour mon premier personnage d'avoir Victoria Vance, un personnage si haut en couleur. Elle aurait pu être plus normale, ça aurait été déjà génial, mais là, d'avoir un personnage avec une folie comme ça, nous en tant qu'acteurs, c'est un lâcher prise total, il n'y a aucune limite. On essaie d'aller dans l'exagération la plus totale, et c'est génial. On ne demande que ça en tant qu'acteur, de s'amuser autant. Moi, j'avais l'impression d'avoir 15 ans et j'ai juste une hâte, c'est d'y retourner.
Sophia Essaïdi, à la maison, il y a des animaux ou pas?
Il n'y a plus. J'ai eu 2 chiens dans ma vie. J'adore les chiens.
Et peut-être un retour à la chanson ou pas?
Ouais, peut-être. Ouais, j'aimerais beaucoup. Je commence à me sentir vraiment prête à y retourner là.
Bon, bah c'est cool. Bah, merci beaucoup, Sophia Essaïdi.
Avec grand plaisir.
Merci encore à Marianne James et à Sophia Essaïdi. Je vous le reprécise. Le DVD, la Pat Patrouille, la Super Patrouille, DVD ou Blu-ray, disponible depuis mercredi dernier. Vous écoutez toujours IDFM Radio.
Quand notre monde est menacé, une équipe décolle comme une roquette.
Oh, il a dit croquette.
Non, j'ai dit roquette.
On parle encore un petit peu cinéma. C'était disponible uniquement sur la plateforme Disney+. Et là, vous pourrez voir le Disney Pixar Alerte Rouge. Alors, uniquement ce dimanche 18 février, ce film sera projeté dans beaucoup, beaucoup de salles. Et c'est l'histoire d'une petite fille. Quand elle est en colère, quand ça ne va pas bien, elle se transforme en panda roux. Découvrons un court extrait de la bande-annonce du film d'animation des studios Disney Pixar, Alerte Rouge, uniquement dans vos salles de cinéma le dimanche 18 février. Mais si vous avez la plateforme Disney+, vous pouvez le revoir, bien évidemment, ce film assez drôle, sympathique, en boucle.
C'est chaud.
Je m'appelle Mayline Lee. Je porte ce que je veux, je dis ce que je veux. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Me voilà.
J'assure. Mais j'ai pas le temps de m'amuser.
Queso blanco me gusta.
C'est pas facile tous les jours, pas vrai?
Les fantômes.
Ça va être la meilleure année de toute ma vie. Et rien ni personne ne m'arrêtera.
C'était un extrait de la bande-annonce du film des studios Disney Pixar, Alerte Rouge, uniquement dans vos salles de cinéma, demain, dimanche 18 février. On va quand même pas refermer l'émission comme ça, puisque nous nous sommes rendus hier sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône dans le cadre du festival Image par Image, festival valdoisien qui vous propose des séances à tout va jusqu'au 24 février avec des réalisateurs qui vous expliquent comment ils travaillent, comment ils font pour imaginer tous ces personnages à travers nos différents films d'animation. On retrouve notre petit sujet dans un instant sur IDFM Radio. Bon week-end, vous écoutez l'émission de la famille jusqu'à 9h30.
Je vois des choses dans tes yeux, je t'offre des roses silencieux, sur des lapproches ou ta peau, tu es la cause de mes maux.
Tu es o fado desse amor, e a saudade sem dor. Nenhum de nós quer perder, e ninguém quer ficar só.
Doucement, doucement, tu me dis, enfin comme il te semblait, je suis comme un apprenti. Timide, j'ai les mains qui tremblent. J'ai le cœur impatient. J'te veux du lundi au dimanche. J'suis d'humeur comme un enfant. Oh, mais moi, peu importe où on ira, Bali, Paris ou Lisboa, je suis bien quand je suis avec toi. Ah, ah, ah. Oh, mais moi, non importe où on va, pra onde a vida te levar. Eu quero estar ao pé de ti. Amém-moi. Oh, amém-moi. 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 Amém-moi.
Que l'Amazon, moi la fraude. C'est le carton jaune si je fraude. Que Dieu pardonne mes fautes. Je suis le cyclone, toi l'émeraude.
J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire.
Je suis l'élève ambitieux.
T'es trop mystérieuse, t'es ma flamme.
Mon César,
mais au amour, il n'y a pas. T'es le premier, oh, t'es mi vida.
Dame, sois mais un beijo. Je te veux du lundi au dimanche.
Elle me lève, elle me oh, mi amour. Oh, mais moi, peu importe où on ira. Bali, Paris, au Lisboa, je suis bien quand je suis avec toi.
Emmène-moi, non importe où on débarque, pra onde a vida te levar, eu quero estar ao pé de ti.
IDFM Radio, aujourd'hui nous sommes au cinéma Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône pour la 24e édition du Festival du cinéma d'animation du Val-d'Oise, le Festival Image par Image. Et aujourd'hui, projection de 3 courts-métrages à travers la colline au Caillou. Et en face de moi, j'ai le pianiste qui va accompagner ces 3 courts-métrages. C'est une séance un petit peu spéciale. Cyril Aufort, bonjour.
Bonjour.
Tu as toujours fait ça ou pas? Depuis combien d'années, justement, tu accompagnes en règle générale des films d'animation?
Alors, ça fait 10 ans que je suis pianiste de ciné-concert. Et je travaille toujours avec le même distributeur, Cinéma Public Film, qui distribue des films à réessai jeunes publics. Et donc tous les ans, je reprends un film de leur catalogue et je recompose la musique. Et ça fait 10 ans que je fais ça. Voilà. Mais au départ, je ne suis pas pianiste, je suis informaticien.
Et de quoi parlent finalement ces 3 courts-métrages qu'on va découvrir dans un instant ?
Alors, ça parle principalement du vivre ensemble et de l'identité. On parle de la migration. C'est des sujets qui sont malheureusement d'actualité, mais qui sont traités d'une manière très poétique. Et vraiment, c'est des films... moi, j'ai beau l'avoir vu 50 fois, je m'en lasse pas. Ça parle aux enfants. C'est des sujets graves, mais qui sont traités vraiment d'une manière très poétique. Et pour les enfants, je trouve que c'est un très bon moyen d'aborder ces sujets-là, d'une manière simple.
Donc, je me présente, moi, je m'appelle Nelly. Je travaille pour Écran VO, donc qui est une association qui met en réseau les salles municipales et indépendantes du Val-d'Oise. Et qui organise le festival Image par Image. Donc aujourd'hui, la séance, le ciné-concert que vous allez voir par Cyril, il est programmé dans ce cadre-là du festival.
Ça a été, c'était cool, avec les enfants qui viennent à la fin. Ils cassent pas trop ton piano quand même.
Le piano a l'habitude de voir des enfants venir jouer dessus, donc il n'y a pas de problème. C'est un moment que j'aime bien de partage à la fin de la séance, où généralement les enfants démystifient un petit peu l'instrument. Et puis j'aime bien l'idée que ça puisse susciter quelques vocations. Donc voilà, peut-être un jour certains seront là à ma place.
Les enfants sont émerveillés. Ça t'a plu? Ça va?
Oui.
C'était cool. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui?
J'ai vu le piano et
ma peluche.
Des dessins animés.
Et qu'est-ce que tu as vu comme type de dessin animé?
La colline aux cailloux.
Oui, c'est ça. Tu as vu les oiseaux?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Des musaraignes.
Des taupes aussi, je crois.
Oui.
Tu as aimé aussi le pianiste?
Oui.
Tu as joué? Tu sais jouer du piano, toi?
Non.
Tu aimerais savoir?
Oui.
Tu vas prendre des cours alors?
Oui.
Non, tu vas lui demander?
Oui.
Cyril, tu donnes des cours des fois ou pas?
Je donnais des cours avant. J'étais prof de piano et j'ai arrêté. Mais mes enfants se mettent souvent au piano avec moi.
Quelques mots aussi, parce que finalement, il y a une vraie bande-son. Et toi, du coup, tu t'es greffé sur ces trois cours films d'animation en créant finalement une nouvelle partition musicale. Comment tu as réinterprété en fait la musique de ces trois courts-métrages?
Alors en fait, évidemment, donc, quand je commence à travailler sur un film, je demande toujours l'accord de la production et du compositeur qui a travaillé sur le film. Là, sur ce film-là, il s'appelle Yann Volzy et comme je disais en début de séance, il a gentiment accepté qu'on crée une nouvelle version. Et moi, ce que je demande toujours, c'est qu'on me donne carte blanche. J'aime bien repartir vraiment de zéro. Je pouvais le faire sur tous les épisodes. Sur le dernier épisode, il y avait un exercice imposé puisqu'il y a le morceau Colchique dans les prés. Donc il fallait, j'aimais bien l'idée que la musique se décline à partir de cette musique-là. Donc en fait, toute la musique qu'on entend dans cet épisode-là, ça va être des déclinaisons du thème de Colchique dans les prés. Et puis voilà, tout est composé, tout est recomposé. Donc c'est pas vraiment, la musique originale n'a rien à voir.
Vous n'avez jamais dégusté un nuage, vous? Vous avez tort. C'est délicieux.
Prochaine séance, comme celle que nous venons de vivre ici, un autre ciné-concert en France, à l'étranger, en banlieue parisienne?
Alors, la prochaine tournée que je fais, elle est dans le Nord. Et donc, je vais tourner autour de Lille, Villeneuve d'Ascq, et j'ai oublié toutes les villes, mais il y a une petite dizaine de villes dans lesquelles je tourne. Et ensuite, donc ça, c'est dans 2 semaines. Et la semaine suivante, je serai dans le Centre.
Tes dates de tournée sur ton site cyrilaufort.com.
Oui, exactement, elles sont toutes présentes dessus.
Yves Bouvray, bonjour.
Oui, bonjour.
Toujours en pleine forme?
Bah ouais.
Toujours président d'Écran VO?
Oui, 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 directeur d'Écran VO. Mais oui,
directeur,
comme si,
président.
Ouais, ouais, voilà, ça, tout va bien.
Qui organise de nouveau le festival Image par Image, 24e édition cette année, du cinéma d'animation un peu partout dans le Val-d'Oise. Mais voir aussi à côté, hein, depuis quelques années, hein, un peu partout en Ile-de-France.
Oui, c'est vrai, à Montreuil, à Paris, au studio des Ursulines, à Antony, au Select, et puis ouais, dans Seine-et-Marne, à Mitry-Mory, enfin voilà, mais vraiment partout, ouais.
Là, on vient d'assister à une séance ciné-concert, et il y en a plusieurs de ce type de séances depuis le 30 janvier jusqu'au 24 février, même voire jusqu'au 25 février, hein, je crois que ça se termine. Alors, il y a la clôture le 24 février, on va en parler dans un instant, mais le 25 février aussi, il y a encore quelques séances, peut-être ici, à Argenteuil, pas très loin.
Oui, tout à fait, il y a des séances même, je crois qu'on termine vraiment le 27 au soir à Beauchamp. Il y a une séance à 18h.
Ça déborde, voilà. En fait.
Ouais, ça déborde. On est avant, on est après. Enfin, voilà, l'essentiel, c'est d'aller rencontrer le public partout où c'est possible et que ça soit joyeux. Et le thème de cette année, c'est au petit bonheur, au pluriel, parce qu'il y en a plein des au petit bonheur. Il en faut, on en a besoin. Et donc, c'est aussi le nom d'un programme. C'est le nom du thème du concours de dessin. Donc, on mettra les prix du concours de dessin à la clôture. Le samedi 24 février.
À Gonesse.
Oui, voilà, au cinéma Jacques Prévert, qui accueille tous les ans des événements. Donc, non, c'est super.
Concours de dessin, on peut encore les déposer dans son cinéma préféré, qui participe au festival jusqu'au 21.
Oui, tout à fait. Le déposer dans son cinéma, qui nous le renvoie, ou bien prendre une photo et de renvoyer la photo du dessin à Écran VO, à l'adresse. Alors, il faut aller sur le site écranvo.org. Il y a toutes les infos sur le concours de dessin, surtout. Ouais.
Il reste encore des gros événements marquants avec la présence d'illustrateurs qui vont venir présenter des courts, des longs métrages. C'est beaucoup de courts métrages quand même. Hein.
Ah non, il y a un peu de tout en fait. Sirocco, le royaume des courants d'air de Benoît Chieux qui va revenir toute la journée du 22 février et notamment tout l'après-midi à Fos au cinéma de Lisieux. Du coup, pour à la fois Sirocco et à la fois pour le programme Au Petit Bonheur, voilà, qui est éponyme. Et donc ça, Benoît Chieux, c'est un immense cinéaste français. Donc c'est l'invité d'honneur hein, de cette année. Voilà, et puis on a pas mal de goûters au ciné pendant les vacances, la deuxième semaine, autour du programme Au Petit Bonheur ou d'autres événements qui sont organisés par toutes les salles du réseau. Et puis le gros événement aussi qui va arriver vers la fin, c'est le samedi 24. Il y a deux gros événements d'ailleurs. Il y a l'après-midi, la clôture au cinéma donc de Gonesse, avec une avant-première nationale qui s'appelle Marcel le Père Noël et le petit livreur de pizza de Julie Ramboville, voilà, et de Nicolas Bioco-Levrin, qui sont co-réalisateurs sur ce film de 45 minutes, qui est un film absolument génial. Alors, on n'est pas sur la période de Noël, on se dit, ah ouais, c'est bizarre, mais le film est tellement génial que on s'est dit, on va le proposer pour la clôture et ils seront là tous les deux, donc ça, c'est formidable. On passera aussi tous les films d'atelier, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'ateliers en ce moment sur tout le festival, et donc qui donne lieu à des restitutions au moment de l'atelier, et puis cette grosse restitution de la clôture. Et puis le 24 février à 18h à Saint-Gratien, à l'espace Jacques Villeglay, il y aura Sébastien Lodenbach avec Olivier Mélano. Ils vont faire une sorte de concert cinéma, concert avec les œuvres qu'est en train de dessiner Sébastien Lodenbach, donc à l'espace Villeglay. C'est très étonnant, c'est de l'art contemporain. Et lui, il vient du cinéma d'animation, hein, c'est lui qui a fait Linda veut du poulet, co-réalisé avec Chiara Malta. Voilà, et donc ça va être aussi des moments forts. Et puis il y a plein de petits moments forts qui se passent. Dimanche, on est très heureux, il y a de façon un peu impromptue Michel Oslo qui vient au théâtre dimanche qui vient au théâtre.
Habitué finalement.
Voilà, exactement, au théâtre Pierre Freinet d'Hermont. Donc voilà, on est très heureux de ça. Et puis il va sûrement revenir même hors festival vers mars-avril. Donc non, l'animation, c'est un peu tout le temps, partout. C'est notre passion, et puis c'est d'aller vers des œuvres sensibles, fragiles, et qui parlent au cœur des enfants. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et des grands-parents, et des parents, parce que c'est très intergénérationnel, maintenant, finalement, toutes ces séances qu'on partage.
Eh bien, merci beaucoup, Yves Bouvray. Le festival jusqu'au 24 pour la clôture, voilà. Mais ça se poursuit encore un petit peu derrière, puis c'est toute l'année de toute façon. Écran VO diffuse des films avec ses salles partenaires un peu partout sur le Valoise, mais aussi en Ile-de-France, hein. Pour tout savoir, pour tout connaître, les réseaux sociaux, Écran VO, le site internet aussi.
Ouais, voilà, écranvo.org, avec le réseau des 26 cinémas du Valoise. En effet, il y a plein de festivals l'été, il y a 26 cinémas hors les murs, ciné d'été. À Vacances de la Toussaint, il y a Jouer au cinéma, qui est un autre festival. Et puis, il y a les 40 000 enfants qui découvrent 3 films par an avec les dispositifs scolaires, maternelle au cinéma, école au cinéma, collège au cinéma et lycéen apprenti au cinéma, surtout le Val-d'Oise. Donc, l'éducation aux images, elle se fait en douceur, dans le plaisir, dans la joie. Mais c'est important de partager, de comprendre ce qu'on voit et d'être sensible. Et c'est vraiment tout le cœur de l'action de ce qu'on mène avec le réseau des 26 cinémas.
Et bah, tant mieux, ça va continuer encore et encore. Et puis les 25 ans, en 2025.
Exactement. Et là, on prépare dès maintenant un beau programme pour les 25 ans.
Merci encore, à bientôt, bon week-end.
Merci beaucoup, à très bientôt.
C'était l'émission de la famille, 8h, 9h30 tous les samedis. Bonnes vacances, bon week-end. Merci à nos différents intervenants et à très vite. Encore une fois, restez avec nous, il va se passer pas mal de choses. De la musique, bien évidemment, énormément. Et puis à 11h, par exemple, Christophe Gravreau vous présentera balade musicale, de la musique classique et un petit peu aussi de temps en temps des airs d'opéra et des invités. Si vous voulez en savoir davantage, découvrir des podcasts de nos émissions, rendez-vous sur notre site idfm98.fr. À très vite.